Qu'est-ce qui est important aussi là-dedans pour soutenir tout ça? C'est du cash. Il faut que tu ailles assez de cash à un certain point pour dire, est-ce que je peux me permettre d'avoir une, deux, trois, quatre personnes qui ne vont pas travailler pour l'agence pendant un, deux, trois, quatre, cinq mois, le temps qu'on fasse un prototype?
Bienvenue sur la saison 2 du podcast Hypercroissance, présenté et produit par J7 Media. Mon nom est Antoine Gagné et je serai votre animateur pour ces nouveaux épisodes. Pour la deuxième saison de notre podcast, on a décidé de faire évoluer notre formule. Dans les 8 premiers entretiens, on a reçu plusieurs entrepreneurs à succès, nous parlant du chemin qu'ils avaient pris afin de faire croître leur organisation de 6 à 7 chiffres. Lors de cette deuxième saison, nous allons continuer de recevoir des entrepreneurs, mais qui, cette fois-ci, vont nous parler de sujets plus spécifiques reliés à l'hypercroissance, comme les erreurs à éviter lorsqu'on veut lever plus de 10 millions US en série A, les étapes qu'un entrepreneur à succès a suivies à la lettre pour réussir la vente de son entreprise, comment croître son organisation en faisant l'acquisition de compétiteurs ou encore comment une entreprise avec énormément d'historique a dû revoir totalement son modèle d'affaires afin de s'adapter aux nouvelles ères numériques. Cette deuxième saison va donc continuer à nous donner des discussions extrêmement intéressantes et enrichissantes les unes que les autres. Le premier sujet abordé pour la deuxième saison est un sujet qui me passionne énormément. Beaucoup d'entrepreneurs ou chefs d'entreprise vont vouloir, à un certain point dans leur carrière, lancer un projet connexe à leur entreprise existante. Et la raison est simple. Souvent, on va penser que l'herbe est plus verte ailleurs et que ce nouveau projet risque de nous faire beaucoup plus d'argent que l'entreprise qu'on gère actuellement. Mais malheureusement, c'est très rare que le résultat final est ce qu'on avait anticipé. Gérer une entreprise est très complexe et s'investir autant dans un nouveau projet afin de le mener à terme demande beaucoup de temps, de concentration et également de stratégie. Et c'est dans cette optique que j'ai décidé d'inviter aujourd'hui Pablo Stevenson. Pablo gère l'agence de marketing numérique Ressac et il va nous raconter aujourd'hui comment il a été capable d'incuber des organisations en utilisant les outils de son agence. Et ce, tout en maintenant une croissance année après année pour Ressac. Sans plus attendre, ma conversation avec Pablo Stevenson. Pablo Stevenson, tu es président fondateur de l'agence de marketing numérique à Montréal, Ressac. Cette année encore, vous avez été nommé parmi, les 500 entreprises en plus forte croissance au Canada. Vous travaillez avec des clients de renom comme Desjardins, Gaz Métro, Yogo, Sport Expert, Loto-Québec et plusieurs autres. Vous avez quasiment une trentaine d'employés dans vos super beaux bureaux de Montréal que j'ai eu la chance d'aller quelques fois. On parle donc ici d'une belle histoire à succès. Pablo Stevenson, merci d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Bonjour, Nancy.
Aujourd'hui, l'objectif de ce podcast-là, c'est vraiment que tu puisses nous raconter un petit peu à travers l'agence Ressac que tu as depuis 13 ans, je pense maintenant, vous l'avez fondée.
Ouais, c'est difficile à dire quand tu commences, là, quand tu commences dans ton salon, mais on se donne un bon 12-13 ans, on va dire. Ouais.
Bon, fait que 12-13 ans. Puis c'est ça, c'est très intéressant. Vous avez été capable d'avoir une belle croissance avec Ressac, mais l'objectif vraiment du podcast aujourd'hui, c'est de parler des projets que tu as été capable, avec ton organisation, d'incuber à l'intérieur de ton agence. Donc, plusieurs beaux projets qui ont vu le jour. Donc, on va être capable de parler un petit peu de ça aujourd'hui aux gens qui nous écoutent. Mais avant de parler des projets incubés, des organisations que tu as créées avec Ressac, peux-tu nous parler un petit peu comment que cette agence-là, Ressac, a débuté puis comment que ça s'est passé dans les premières années, dans les premiers mois?
Oui, ben, c'était tout un défi parce que moi, en tout cas, je me suis toujours intéressé depuis que j'étais jeune vraiment au web en général. Tu sais, moi, j'étais le gars qui allait en cachette utiliser le Mac à mon frère, genre quand j'avais pas le droit d'y aller, tu sais, des Macs, mais c'est juste un écran, c'est monochrome, ça devait voilà, coûter genre à peu près 4 000-5 000 $ dans le temps. Puis moi, j'ai sneaké in pour voir un peu comment ça marchait. Fait que le côté un peu, je te dirais, numérique, la technologie m'a toujours intéressé. Fait que moi, c'est sûr, je disais, quand je vais être plus grand, tu sais, je veux avoir une compagnie qui va travailler dans le côté numérique. Ça, c'était toujours été quelque chose qui m'est venu de manière très naturelle à ce niveau-là, tu sais. J'ai eu la possibilité d'aller travailler, bizarrement, chez Loto-Québec, qui avait une division qui s'appelait Ingénio, Loto-Québec. Ce que les autres, ils faisaient, là, dans le temps, c'est de la loterie ou des jeux vidéo en plus sur CD-ROM. Là, tu vas dire, qu'est-ce que ça mange en hiver, mais tu mets un jeu là-dedans, puis c'est pas des jeux de machines ou de casino, c'est vraiment des jeux quand même de plateforme assez interactifs. Puis tu avais la possibilité de gagner des sous là, pour en jouant à ces jeux-là. Fait que moi, j'ai travaillé un peu dans ce truc-là. J'avais trouvé ça le fun, mais c'est pas l'affaire la plus passionnante. Puis c'était un contrat. Puis avec des contacts, je me suis dit, OK, ben, je vais essayer quelque chose d'autre. Puis j'ai décidé d'aller à une agence. Puis il y avait une agence qui s'appelait dans le temps ici à Montréal, 2B Interactive, qui était une des agences les plus respectées au niveau numérique. Puis une des premières, je dirais, agence 100% numérique au Québec.
Là, on remonte dans quelles années à peu près?
On est potentiellement 2004, 2005, quelque chose comme ça.
Parfait.
Moi, je commençais, puis là, j'ai commencé à travailler là, puis j'avais des bonnes idées, etc. Puis on m'a parlé à un moment donné de dire, « Hey, sais-tu quoi? Il y a un site d'un client, puis on veut le faire monter dans les résultats de recherche. » Donc, ma première, vraiment, là, je te dirais, rencontre avec ce qu'on appelle du SEO, tu sais, dans le temps, là, vraiment.
Du marketing numérique, SEO.
Exactement, tu sais. Puis dans ce temps-là, ce que tu faisais, c'est cacher des mots-clés principalement là dans ta liste, au bas de ta page, puis tu les mettais de la même couleur que ton background, tu sais. Mm-hmm. C'est un peu comme ça que ça faisait. Puis là, j'ai commencé à lire sur les différentes techniques, commencé à apprendre là-dessus, puis j'ai vraiment trippé parce que je trouvais que ça rejoignait beaucoup plus ma passion originale de quand j'étais kid que nécessairement le côté un peu plus jeu vidéo que j'aime, je pense, faire la différence entre une vocation puis une passion. Puis ça, c'est un exemple, je pense, direct de ça. Puis, fait anodin, cette agence-là fut acquise quelques années plus tard, juste pour te dire un peu où ce que c'est rendu, par Ogilvy.
OK. Fait que ça, fait partie d'un projet quand même d'envergure.
Oui, mais c'était l'agence qui avait la plus grande croissance dans le temps. T'sais, c'est comme, il y a beaucoup de trucs de ressemblance avec RESAC aujourd'hui.
Intéressant.
Je te dirais que pas que c'est la même chose, c'était pas la même mode de service. On parle de quand même 12, 13 ans auparavant. Mais je te dirais la drive de dire, OK, on essaie des trucs aujourd'hui, puis le matin, puis on les exécute l'après-midi, puis on voit que ça fonctionne. Il y avait cette vibe-là aussi. Fait que peut-être, indirectement, ça m'a peut-être influencé dans mon attitude d'affaires, dans la manière de voir les choses au niveau du business.
Intéressant.
Fait que, bon, j'ai commencé à travailler là. J'ai un contrat, puis à un moment donné, je me suis dit, regarde, j'aimerais ça aller plus loin, puis me perfectionner là-dedans. Fait que dans l'agence, je commençais à lire pas mal au niveau du SEO, du marketing numérique, etc. Puis je dis, ben, je vais me lancer à mon compte, puis j'avais pas l'aspiration de me lancer à mon compte juste pour être travailleur autonome, de lancer à mon compte pour lancer ma business. Fait que j'ai
commencé. Déjà un mindset entrepreneurial.
Ouais, absolument. Fait que j'ai travaillé pour de vrai quelques mois dans cette agence-là. Puis après ça, j'ai commencé à être chez nous. Puis j'ai dit, OK, ben, comment que je fais pour mettre ça de l'avant? J'ai commencé à builder un plan d'affaires. Je me suis enfermé chez nous pendant un mois. J'ai fait, OK, voici le plan un peu pour développer tout ça. Puis j'ai suivi le plan, puis je te dirais 2-3 mois plus tard, j'avais mon premier local. Le premier local, moi, c'était important de sortir de chez moi. Ça, c'est un milestone, même si c'est plus difficile des fois financièrement de dire je pourrais travailler chez nous, je pourrais travailler dans des cafés, je pourrais travailler n'importe où puis économiser de l'argent. Mais quand t'as un loyer à payer à la fin du mois, puis t'as des frais opératifs, tu te bouges le cul, tu sais, puis c'est vraiment ça que je voulais. Puis on commençait à travailler là, premier client, deuxième client, troisième client, j'ai commencé à engager du monde. À un moment donné, on était trop pour être dans le local, fait que là, on a commencé à déménager. Puis pas longtemps après ça, on est où ce qu'on est aujourd'hui, dans le Mainland, vraiment là.
Fait puis, que, puis tout ça, ça s'est passé quand même assez rapidement. Donc toi, tu disais que tu avais travaillé pour l'agence jusqu'à peu près 2004-2005. Ouais. À partir de là, tu lances RESAC dans ces mêmes années-là. Puis, on a déjà eu une discussion là-dessus, puis j'ai trouvé ça fascinant. Au départ, l'acquisition de clients que tu faisais, c'est passé beaucoup en sous-traitance de grosses agences. Et à travers le temps, par la suite, tu t'es décalé un petit peu de ça.
Oui, ben, pour beaucoup les entreprises qui vont démarrer, surtout dans notre domaine, c'est d'être un peu un fournisseur des plus grandes agences. T'sais? Puis, c'était vraiment ça la manière que nous, je dirais, la fondation de notre croissance dans les premières années. Comme on sait, là, c'était pas évident. Tu arrives, tu n'as aucune expérience, tu n'as pas encore assez de crédibilité dans le marché, tu n'es pas assez connu, c'est difficile. Si tu n'as pas nécessairement un réseau, puis pour être honnête avec vous, moi, j'avais zéro réseau là, là-dedans. Là, je connaissais pas assez de monde.
From scratch. Là.
From scratch à 100%. Puis, est-ce que je me voyais aller cogner aux portes puis appeler à toutes les business une par une? Pas nécessairement, parce que ça prend énormément de temps, tu as énormément de refus. Puis à un moment donné, ça t'affecte au niveau de ta motivation. Fait que j'ai dit, au lieu de mettre du temps pour faire le même travail, puis espérer pogner un client là-dedans, je vais utiliser mon temps de manière un peu plus intelligente. Fait que là, j'ai commencé justement à contacter les agences principales. Je disais, regarde, t'as un site que t'as lancé, t'as besoin des SEO. Ah, c'est vrai, on a besoin des SEO parce que par défaut, puis même encore aujourd'hui, en 2018, toute la partie un peu marketing, une fois que le site ou la stratégie est terminée, on pense à ces affaires-là que devrait être pensé en avance. T'sais.
Exactement, en amont de la création du site.
Totalement. Fait que nous, on intervenait là, puis on sauvait souvent le cul de la plus grande agence, tu sais, qui pouvait dire à son client, non, il y a quelqu'un qui s'occupe, c'est un expert, etc. Fait que c'est là que vraiment qu'on était mieux positionné là-dedans. Là. Fait que oui, donc les premières années, je te dirais que potentiellement un 75% de notre chiffre d'affaires dans les deux premières années à peu près, c'était vraiment des... ça venait des agences, des plus grandes agences avec qui on travaillait, autant des agences plus de pub traditionnelles que aussi des agences médias, beaucoup. Ça nous a permis de travailler sur des gros mandats. T'sais, même si on ne travaillait pas directement avec le client, c'était quand même des gros budgets qui étaient confiés pour la taille de l'agence. Si je donnais un exemple, un des clients avec lesquels on travaillait dans le temps via l'agence, c'était Bel Air Direct. Ça fait quand même assez longtemps, fait que full disclosure, tu sais. Mais Bel Air Direct, c'est des assurances auto. L'assurance auto est un marché tellement compétitif. Puis juste te donner un exemple pour les geeks un peu qui font du search engine marketing ou la performance, le coût par clic qu'on payait à chaque fois qu'il y avait le mot-clé assurance auto sur Google dans ce temps-là est à peu près de 3,50 $, 4 $. Aujourd'hui, ce coût-là est à peu près à 30, 35, 40 $. Ça donne une idée de l'évolution puis de le niveau de compétition qu'il y avait. Puis on trouvait ça cher dans le temps, puis on a essayé de l'optimiser le plus possible, tu sais. Fait qu'on a commencé à travailler avec eux, on a fait une super bonne job, on a travaillé avec d'autres agences, etc. Fait que mon objectif, c'était de faire ça pendant un certain temps puis de manière naturelle le plus possible, de dire, OK, mais à un moment donné, tu veux des relations directes avec les clients. Parce que quand une relation directe, ça te fait grandir comme entreprise. D'un côté, je pense que la sous-traitance te donne du cash, tu n'as pas besoin de faire du développement d'affaires tant que ça. Ben, tu te fais donner des mandats, fait que c'est super facile, c'est super payant. Mais il faut faire attention parce que tu peux te rendre très confortable là-dedans.
Puis tu peux devenir dépendant.
Puis une chose est sûre, puis n'importe qui part une agence ou qui fait de la sous-traitance dans n'importe quel domaine, à partir d'un certain temps, il y a du roulement chez les agences ou chez les compagnies qui vont donner du travail. Fait que c'est même pas nécessairement les mêmes personnes. Peut-être les personnes ont une autre agence avec laquelle ils veulent travailler. Fait qu'il y a rien, il y a pas de certitude par rapport à ça. Fait que du jour au lendemain, si ton chiffre d'affaires est basé à 100% là-dessus,
très dangereux.
C'est très dangereux. C'est quasiment plus dangereux que juste être dépendant d'un gros client. Tu peux avoir plein de petits clients, mais si ces agences-là se passent le mot, tu sais, à un moment donné, tu peux perdre. Il y a toujours, là, je pense, la saveur du mois. Là,
ouais.
Tu peux être la saveur du mois pendant un an, deux ans, mais pas toujours.
Exactement. Puis, donc là, ça amène à un point de dire si tu as juste, pas juste, mais si une certaine partie de tes revenus viennent de la sous-traitance, à un certain point, tu veux sortir de là.
Ouais.
C'est là que vous commencez à aller chercher un petit peu plus de clients.
Ouais.
Et là, vous commencez à avoir des pitchs. Puis là, je pense qu'il y en a un intéressant que tu vas pouvoir nous parler aujourd'hui, le pitch de l'Auto-Québec, qui s'est passé. Raconte-nous donc un peu cette histoire-là.
Il y a beaucoup de trucs qui sont passés, mais effectivement, on commençait à aller voir un peu plus du client direct, puis le mot se passait, parce que veux pas, les gens, quand tu fais une bonne job, ils en parlent, fait qu'à un moment donné, quand ça peut être quelqu'un de l'agence avec qui qu'on sous-traitait, qui dit « Hey, cherche une agence qui fait ci ou etc., tu connais-tu quelqu'un? » « Ouais, je connais eux autres, tu sais. » Fait que ça commence vraiment comme ça, du bouche-à-oreille, tu sais. Puis encore aujourd'hui, la grande majorité de nos clients, c'est la référence du bouche-à-oreille. C'est ça, puis on roule là-dessus depuis qu'on existe, vraiment. Là. Puis effectivement, ça nous arrive quelques fois dans l'année que s'il y a un client qui nous semble super intéressant et qui pourrait nous faire triper, puis il fait un pitch, on ne va pas s'empêcher de participer, puis on va y aller. Puis c'est ça qui est arrivé il y a quelques années. Il y a eu un pitch qui était pour l'Auto-Québec, qui, dans le temps, c'était pas nécessairement du monitoring tout de suite, mais c'était du SEO qui recherchait. On a commencé à pitcher pour ce client-là et bizarrement, on l'a eu. On s'attendait vraiment pas à l'avoir parce que c'était vraiment notre première expérience avec un pitch, tu sais, comme un peu plus d'envergure.
Traditionnel,
ouais. Ouais, traditionnel, tu sais. Puis on voyait que c'était quand même différent. Puis ça nous a un pitch, c'est souvent le meilleur élément pour te faire un compte rendu d'où ce que t'es, puis où ce qui sont tes forces et faiblesses. Parce qu'il y a des questions, puis c'est plate des fois faire des pitchs, surtout genre un peu plus gouvernemental, parce que tu as tout le temps les mêmes questions qui reviennent, etc. Mais ça te fait un examen de conscience.
Première expérience avec le pitch.
Ouais.
Vous développez cette relation-là avec l'Auto-Québec, puis quand tu fais un bon travail habituellement, une entreprise souvent, quand ils font un autre pitch, un petit peu plus tard, qui ouvre le pitch, ils peuvent réouvrir les portes à ce que tu reviennes pour prendre le mandat. Puis je pense que, encore une fois, vous avez fait une bonne job de SEO cette fois-ci. Puis ils vous ont demandé de revenir un petit peu plus tard.
Ouais, mais ça, c'était pitch d'une manière un peu plus différente.
Ok, vas-y donc un peu.
Donc, c'est encore une fois, même quand tu gagnes des pitchs, les relations avec les personnes avec qui tu vas travailler, il y a du roulement quand même dans ces compagnies-là. Tu sais, c'est pas les mêmes personnes. Fait que tu as peut-être fait une très bonne job pendant 2-3 ans. Mais s'il y a un autre pitch 6 ans plus tard, peut-être que c'est même pas les mêmes personnes.
Tout recommence.
Exactement, faut toujours recommencer. Ce qui te donne des points, c'est qu'une fois par contre que tu vas aller pitcher puis te shortlist, de dire que tu as déjà travaillé avec eux, ça te donne des points, mais j'utiliserai pas, faut jamais prendre quelque chose, une relation comme acquise. T'sais. Fait que effectivement, quelques années plus tard, il est arrivé un truc vraiment très anodin. Je ne rappelle pas que ça fait combien de temps, là, mais peut-être il y a 7-8 ans de ça. Là. C'est dans le temps où ce que
tout le monde... 2010 à peu près?
2010, 7, circa 2010. Ouais. À chaque fois que quelqu'un allait à quelque part, là, il faisait ce qu'on appelle un check-in. Il y en a qui m'écoutent en ce moment, c'est sûr, certains qui se rappellent. Là, genre, il y avait une application qui était Foursquare, qui existe encore d'ailleurs. Puis t'allais à quelque part et disais, ah, ben, je suis check-in, je fais un check-in chez WeWork, je fais un check-in au Starbucks, je fais un check-in au bureau, je fais un check-in chez nous, etc. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait absolument rien. Mais il y avait certaines business qui disaient, si tu faisais X nombre de check-in chez eux, tu pouvais devenir le maire de la place, à certains certaines places. Puis je me rappelle, il y avait des cafés à Montréal qui disaient, si tu faisais des check-in à tous les jours pendant X temps, tu avais un café gratuit après un mois. Là, ben oui. Exactement. T'sais, fait que tout le monde faisait des check-in. Puis il y avait comme cette culture-là qui est encore présente, mais on est beaucoup plus intelligent, je trouve, dans la manière qu'on partage les informations, surtout au niveau business. Mais dans le temps, tout le monde partageait à peu près tout ce qui se passait. Ah ben aujourd'hui, je suis au restaurant, aujourd'hui, je suis heureux de manger des frites, etc. Il y avait vraiment tout. Dans cet élan-là, il y avait quelqu'un que je peux pas nommer. Un jour, je vais y dire. Mais genre, il y avait quelqu'un que je connaissais, que je suivais sur Twitter, Foursquare, etc. Tu sais, c'est le même réseau social. Puis il disait, très content d'avoir présenté notre solution de monitoring chez Loto-Québec. Là, je fais, ah, intéressant, du monitoring sur les médias sociaux. Fait que okay. Lui, tu sais, c'est cool, tu sais, il t'allait présenter, fait qu'il était fier de qu'est-ce qu'il t'allait présenter. Moi, je prends le téléphone, j'appelle la personne qui est en charge justement des communications numériques chez Loto-Québec.
Est-ce que tu la connaissais à ce moment-là,
non,
la personne?
Aucunement.
Puis okay, t'as juste pris le téléphone, j'ai juste pris le call à cause d'un check-in.
Exactement. Puis là, je fais juste demander, genre, hey, salut, comment ça va? J'appelle juste comme ça, je veux dire, je sais pas si vous avez besoin de monitoring de temps en temps. Nous, on a une solution de monitoring qui peut être super intéressante, n'importe quoi. Ah, ben justement, on est en train de chercher une solution de monitoring en ce moment. Écoute, il va y avoir un appel de proposition. Puis, dans cet appel de proposition-là, on va inviter des agences ou des partenaires qui sont capables de nous donner cette solution-là. On va t'inviter là-dedans, puis tu pourras nous proposer ta solution. Parfait. C'est aussi simple que ça. T'sais, genre, pis,
Les check-ins.
Vive les check-ins à maudit, là. À maudit. Fait qu'on a reçu l'appel de proposition en effet. Puis, tu sais, c'est quelque chose de quand même assez complexe parce que Loto-Québec avait des besoins très spécifiques.
Tu me parles un peu de ces besoins-là?
Oui, ben tu sais, ils cherchaient une solution de monitoring, principalement pour... Qu'est-ce que ça veut dire du monitoring? C'est à peu près savoir ce qu'on dit sur la marque Loto-Québec en ligne. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Qui est en train de parler? C'est important.
Donc, la veille stratégique.
Stratégique de réputation. Puis des fois, la veille stratégique est utilisée au niveau marketing, mais c'est vraiment de la veille qui se faisait au niveau des médias sociaux. Puis, honnêtement, une des trucs que moi, je respecte le plus chez un Loto-Québec, c'est que quand il y a des appels de proposition, l'approvisionnement, la manière que c'est fait, c'est extrêmement bien fait. Les besoins sont très bien identifiés. Puis ça fait beaucoup du bien, là, genre des fois, parce que
t'as un bon brief, là.
T'as des briefs ou des pitchs, des fois que c'est, on sait pas trop ce qu'on veut, proposons-nous quelque chose, tu sais, beware, là. Tu sais pas jamais à quoi t'attendre, mais quand un client sait exactement ce qu'il veut, ça, c'est quelque chose de très le fun. Puis on sentait qu'il y avait cette connaissance-là, cette professionnalisme-là qui était derrière ça. Fait que, on regarde un peu les critères, etc. Puis ils disent, on cherche un service, on cherche aussi une équipe qui va nous aider dans les monitoring, mais surtout aussi un outil, une technologie qui va être capable d'écouter ce qu'on dit par rapport à Loto-Québec. Et dans ce moment-là, il y avait comme des critères. Ces critères-là, c'est d'avoir une interface en français.
OK. C'est super important. Parce que toutes les interfaces, souvent, sont uniquement anglophones.
Uniquement en anglais. Puis, je veux pas, Loto-Québec, c'est une société d'État. C'est important pour eux d'avoir le français.
Fait que juste pour faire un recap vite fait, Loto-Québec, à ce moment-là, cherche une équipe, un logiciel de monitoring francophone. Tu trouves ça grâce à un check-in sur Facebook. Tu cold call pour avoir, pour faire partie un petit peu de cet appel d'offre-là. Là, tu arrives. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, on regarde, on se pose la question, as-tu un logiciel qui fait ça, tu sais?
OK, fait que t'as pas de logiciel à ce moment-là.
Non, on en a pas. Pas du tout. Pas du tout, mais on a regardé. Il y a plein de solutions disponibles qui existent encore d'ailleurs. Sauf que ces solutions-là, il y en avait qui mettaient, on pouvait checker tous les critères de l'appel d'offres, sauf qu'il manquait le côté français.
OK.
Ou il y en a d'autres qui étaient des solutions françaises qui avaient français, mais tous les trucs techniques, ils les avaient pas. Fait qu'avec aucune solution qui fitait vraiment là-dedans.
OK.
Fait que nous autres, on est arrivés avec une approche, regarde, nous, on a un outil propriétaire pour faire ça. On a un outil propriétaire qui permet genre justement de pouvoir mettre qui répond exactement à vos critères, etc. On s'est dit que c'était important parce que, je veux dire, toutes les autres, la compétition, il y avait juste un moyen, s'associer avec une solution existante qui n'avait pas tous les critères ou créer ta propre solution, tu sais. d'après moi, puis je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans cet appel d'offres-là, mais la grande majorité, j'imagine, des agences qui ont pitché, ils ont pitché avec une solution qui existait déjà. Fait que t'arrivais, ça arrivait souvent que probablement t'avais deux, trois agences différentes qui disaient, ben, nous, on utilise le même outil, mais on le fait d'une manière différente.
Personne n'avait un avantage concurrentiel.
Il n'y avait pas d'avantage concurrentiel.
Tout le monde pitchait la même plateforme.
Exactement. Okay. Exactement. Fait que nous, on est arrivé avec quelque chose de complètement différent. On dit, OK, on va faire quelque chose qui répond à vos besoins, qui est beaucoup plus custom, etc. Fait que, on a lancé ça comme une perche, puis quelques mois plus tard, parce que ça prend des mois, là, des fois, ces pitchers disent, OK, on est intéressé par votre solution, mais on va voir de quoi ça a l'air, tu sais. Vraiment, là.
OK. Fait que ça prend quelques mois avant qu'ils disent qu'ils sont intéressés.
Ouais.
Là, quand ils disent qu'ils sont intéressés, tu nous as dit tantôt que ça n'existait pas, ce que tu leur as parlé.
Non, on l'avait dans notre tête.
Fait que là, ils t'en parlent, ils disent, on veut le savoir. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as développé quelque chose?
Ouais. C'est là qu'on a fait un développement extrêmement rapide. On a rassemblé une équipe de devs qu'on avait. On a commencé à travailler bouchée double tous les soirs pendant, justement, puis je me rappelle de mon collègue Béat, là, justement, qui est à l'origine de toute cette idée-là. C'était juste débile. Là. On avait comme une certaine clairvoyance de qu'est-ce qu'on avait. On connaissait tellement bien le pitch qu'on savait exactement c'était quoi les besoins du client. Fait qu'on n'était pas en mode guessing. On était en mode genre, maintenant, on va construire quelque chose qui va répondre à ces besoins-là.
Okay.
On n'était pas nécessairement en train de se demander, ouais, mais ça, c'est-tu mieux de le mettre là ou on est-tu mieux de le faire? On le savait. T'sais, il y a eu comme un moment où on était tellement allumé, là, vraiment. Là,
une épiphanie.
Oui, exactement. Puis toute l'agence était vraiment comme ça. Fait qu'on a commencé à mettre les bouchées doubles. On a mis une team de devs là-dessus, commencé à développer cet outil-là. Normalement, un outil comme ça, ça peut prendre des mois avant que ça sorte. On a réussi à faire un prototype qui fonctionnait à peu près en 2 semaines et demie. Donc, le temps qu'on s'est fait appeler, on veut vous voir, puis le temps qu'on s'est rencontrés.
Fait que le logiciel de monitoring que l'Auto-Québec recherchait tant que ça, vous autres, vous arrivez, vous leur dites qu'on a quelque chose, finalement, on ne l'a pas. Mais quand ils nous disent qu'ils sont intéressés, on le crée en 2 semaines.
Ouais.
Vous allez le présenter, qu'est-ce qui se passe?
Ben, on va le présenter, puis ça répond exactement aux besoins du client. Puis, tu sais, le client voulait valider c'était quoi, parce qu'on dit qu'on a une solution. Fait qu'il veut voir c'est quoi cette solution-là. Est en anglais, est en français, elle répond exactement aux besoins du pitch parce que nous, on l'a fait vraiment pour répondre aux besoins de l'Auto-Québec. C'est un outil qui a été développé principalement pour eux. Là, on peut le dire d'une certaine manière comme ça. Puis, fait qu'ils nous font de la suggestion. Hey, est-ce qu'on pourrait avoir ça? Absolument, on peut. Fait que c'est sûr et certain qu'à partir de là, il y a un lien de confiance qui s'est créé. La solution fonctionnait 100%. Puis, ils ont commencé à l'utiliser. Puis, on a développé vraiment une relation à partir de là qui a duré vraiment... Ils ont utilisé cet outil-là pendant à peu près 4-5 ans, quand même.
4-5 ans. Puis là, c'était une des premières fois qu'avec RESAC, vous créez
un
genre de projet technologique.
Ouais.
On pourrait appeler ça un SaaS quasiment, un logiciel de service. Donc, un peu le premier projet incubé que RESAC a été capable de faire. Par la suite, qu'est-ce qui se passe avec ce projet-là? Est-ce que vous le laissez exclusivement à l'Auto-Québec? Comment vous l'utilisez, ce logiciel-là?
Bien, c'est un logiciel que nous, on a développé, premièrement, avec du cash et du temps et du brain qu'on avait à l'agence. Parce qu'il ne faut pas oublier que le besoin de l'Auto-Québec, c'est d'avoir un outil. Nous, on a répondu, on amène notre outil, mais notre outil n'est pas exclusif juste à un client. Naturellement, nous, on voyait la grande possibilité de le proposer à d'autres clients parce que plus que tu as des clients qui l'utilisent, plus que tu peux enrichir justement le produit puis tout le monde peut en profiter parce que tu as plus de ressources qui sont disponibles. Par contre, je te dirais la direction commerciale qu'on voulait pas nécessairement prendre, puis j'y pense encore, je me dis, est-ce la bonne affaire ou pas? Tu as encore des doutes, mais je pense que c'était la bonne chose à faire. Il y avait une possibilité de dire, OK, non, on va mettre vraiment une équipe de vente là-dessus, puis ces gens-là vont commencer à appeler non-stop, puis ils vont faire du cold calling, ils vont envoyer des emails, puis let's go, on va commencer à se battre. Sauf que il faut se rendre prendre conscience que dans ce temps-là, les logiciels de monitoring comme ça, là, ils commençaient à en avoir de plus en plus, puis l'offre commençait à être consolidée. Fait qu'on aurait pu compétitionner, mais il aurait fallu être backé par un fonds d'investissement, du capital de risque, etc. Donc ça, c'est une autre aventure qui nous éloignait.
Des gros joueurs, là.
Exactement. C'est une autre aventure, je pense, qui nous éloignait un petit peu de la possibilité qu'on a, principalement de le vendre pour nos propres clients.
Okay.
Puis, effectivement, comme on avait discuté à un moment donné rapidement, c'est devenu quelque chose qui a généré des revenus super intéressants pour l'agence pendant vraiment des années. Mais en même temps aussi, ça nous a ouvert les portes avec énormément d'autres clients.
C'est ça l'idée. C'est que ce projet incubé-là, si je comprends bien, sans nécessairement, parce qu'en même temps, c'est ça, il faut que tu arrives, puis si tu veux le commercialiser en soi, c'est un autre business totalement.
Totalement.
Donc au final, tu prends ce logiciel-là qui s'appelle Claire, c'est Claire, ouais, le exactement. Nom que vous lui avez donné, puis au lieu de le commercialiser, tu l'utilises pour ton agence, puis ça, c'est un tool, c'est quasiment un outil d'acquisition à la fin de la journée. C'est ça qui s'est passé.
C'est vraiment un outil d'acquisition, puis comme je t'ai dit, nous, je dis tout le temps, on n'a pas de vendeur à l'agence, on a, tu sais, c'est toutes des références. Je pense que nos vendeurs, s'il y en a un, là, c'est vraiment les outils qu'on a générés, tu sais.
Okay.
Je te dirais, ça fait partie d'un, c'est un écosystème qu'on est en train de créer. Puis, quand tu vas voir un client puis dire, OK, mais on veut vous engager pour les médias sociaux. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Qu'est-ce que vous êtes? Ben, on a des processus. Mais tout le monde arrive avec des processus super hot, tu sais. On a une super bonne équipe. Ouais, mais tu sais. OK. Tout le monde a une bonne équipe, n'importe quoi. On a aussi de la technologie exclusive qui marche puis permet de faire ça. C'est là que ça, le client a une plus grande réceptivité. Puis, automatiquement, tu as comme une plus grande confiance vraiment d'aller pitcher ce genre de trucs-là.
100%.
Fait que c'est ça qui était vraiment très fort pour nous. Fait que, puis on va en parler un petit peu plus tard, la mentalité que tu as en business pour une business à revenu EBITDA là, comme RESAC versus une business qui est financée par du capital de risque, qui est en croissance, ton cerveau, il n'est pas à la même place du tout.
Ben, c'est sûr.
Peut-être de RESAC, dans ce cas-là, n'avait pas la maturité commerciale pour pouvoir entreprendre encore un projet comme ça.
Parce qu'on s'entend, si tu pars, parce que de un, au moins ça vous a aidé à aller chercher d'autres clients, mais si d'un autre côté tu t'en vas le commercialiser, ouais, de A à Z, un projet comme ça, tu es dans un autre type de business, tu es dans du software, puis tu le sais que rendu là, comme tu le disais tantôt, tu as besoin d'énormément de fonds, puis énormément de temps aussi. Toi, tu as quand même une équipe pendant ce temps-là à gérer. T'as peut-être on est en quelle année à peu près? 2010, 2011?
On est peut-être 7-8 à l'agence ou quelque chose comme
7,
ça. Ouais.
Tu as quand même 7-8 bouches à nourrir aussi.
C'est ça. Exact.
Donc, on s'entend. Le timing a été bon pour utiliser cet outil-là, Claire, pour aller chercher d'autres clients, mais le timing n'a pas été le meilleur pour commercialiser ce projet-là directement avec d'autres entreprises. Mais ça a dû être un avant-goût. Ça a dû commencer à te trotter dans la tête de dire, si on est capable de le faire une fois, peut-être qu'une prochaine fois, on serait capable de créer un autre logiciel, un autre outil technologique ou peut-être même une autre organisation que cette fois-ci, on pourrait y aller all-in. Et là, J'ai lu sur InfoPresse et je te cite la plateforme Soco que tu as lancée il y a quelques années de ça. J'ai l'impression, parce qu'il était marqué, que la plateforme Soco a été conçue chez RESAC alors qu'un client de l'agence numérique cherchait à atteindre un auditoire de créneaux pour sa campagne. Donc, la nouvelle entreprise Soco que vous avez créée il y a quelques années s'est créée, j'ai l'impression, de la même
moins d'un
manière.
An. Ça fait moins d'un an.
Moins d'un an maintenant.
Oui, ouais, ça va faire un an-ish.
Donc, si je comprends bien, ça s'est fait de la même manière que Claire s'est créé. Absolument. Un besoin d'un client, on y répond avec une solution qu'on pense qu'on serait capable de créer. Puis parle-nous un petit peu de ce que c'est.
Exactement. Mais comme je t'ai dit, on a toujours dans le DNA de. Si ça n'existe pas, on peut le créer. Puis on ne va pas tirer une balle dans le pied non plus, mais on va essayer de faire quelque chose. De hacker un peu un processus ou bypasser vraiment ce qu'on. Un avantage compétitif. Fait qu'effectivement, quand j'ai vu la possibilité avec Claire, qu'est-ce que ça nous avait donné comme avantage compétitif, je me dis, mais j'ai toujours été ouvert et j'attends. En fait, j'entends toujours le temps dans ma tête pour dire, OK, il va y avoir un autre projet comme ça. Il y en a tout le temps. Tu sais, j'attendais juste. Puis à un moment donné, il y a une circonstance avec un client, effectivement, qui est un client qui est une grande institution financière très connue au Québec, qui nous a demandé d'aller cibler des entrepreneurs en construction.
OK.
Puis ceux qui sont sur Google, Facebook, etc., c'est bien le fun. On est capable de cibler énormément de personnes par intérêt, par démographique, etc. Mais tout ce qui est un métier qui est aussi spécialisé que, par exemple, des entrepreneurs en construction, c'est difficile, tu sais. Puis tu avais tantôt, tu sais, tu fais une campagne puis tu cibles les gens qui trippent sur les marteaux, les drills, etc. Tu sais, c'est pas la meilleure affaire, tu sais, nécessairement.
Les ciblages sont compliqués pour quelque chose de spécifique.
Exactement,
comme ça.
C'est très difficile. Fait que tu dis, comment qu'on fait pour aller chercher cette personne-là? Parce qu'on ce qu'on avait peur, nous, principalement, c'est de commencer à mettre un budget, cibler, avoir une cible extrêmement clichée, puis avec des intérêts qui sont un peu far-fetch, puis avoir énormément de pertes médias. Donc, de l'argent qui est investi à cause qu'il y a du monde qui est mal ciblé, comme la grande majorité du média, en fait, en ce moment.
Mm-hmm.
Fait que, comment qu'on fait pour réduire ça? Puis on a trouvé qu'il y avait un site. Il y avait un site, que c'est la gang, justement, de Smart Reno. Smart Reno, c'est un site qui est un startup aussi qui permet de mettre en relation des entrepreneurs en construction avec des gens qui ont des projets de rénovation. Fait qu'imagine-toi comme un Tinder entre les deux. Tu dis, hey, mais moi, je veux refaire mon deck. les entrepreneurs en construction, ils vont là-dedans, puis ils font des propositions, puis tu as un système de rating, etc. Donc, c'est vraiment très cool là, comme site, d'ailleurs. Là.
On a un de nos clients qui a été interviewé sur le podcast. Il y a peut-être, je pense que c'était l'épisode numéro 5 ou 6, Michel Jaudoin, qui a une entreprise compétiteur à sa soumission rénovation.
Exactement. Mais tu connais le modèle.
Oui, je connais très, très bien
le
modèle.
On les avait vus aussi, mais tu sais, on a commencé vraiment d'explorer ce qu'on pouvait faire avec Smart Reno, puis au début, la proposition était, vous pouvez acheter de la publicité sur notre site. Puis comme tous les publishers, ils ont de la publicité sous la forme de premium, bannière, que ce soit, ça peut être des articles natifs, ça peut être t'envoyer dans un newsletter. Tout ça est intéressant pour nous, mais nous, ce qu'on voulait absolument, c'est être capable de parler avec ces gens-là dans un autre média. Et l'autre média était pour nous Google ou idéalement Facebook. Fait comment qu'on pouvait le faire? Puis on s'est dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est envoyer notre pixel Facebook que tu mets dans ton site, dans l'interface où ce que tous les entrepreneurs en construction vont se loguer pour aller voir des offres ou n'importe quoi. Donc, on sait que c'est des entrepreneurs en construction. Puis nous, on accumule des audiences. Puis ces audiences-là, on les transfère directement dans une audience remarketing sur Facebook. Puis on va pouvoir leur parler à ces gens-là sur Facebook. Fait que moi, j'ai pas besoin de ton espace publicitaire, j'ai besoin de ton audience. Ça, c'est la grande différence qu'on a besoin. Fait qu'on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire, puis on est arrivé à un deal, puis une des limitations qu'il y avait dans cette opportunité-là, c'est le temps de négociation, c'est le côté technologique. Si je veux certaines pages, avec telle heure du jour, y a-t-il des critères d'autres que je peux faire? T'sais, il y avait comme des limitations.
Fait beaucoup de critères dit, comme ça, oui.
Exactement. Dit, il y aurait peut-être une manière de faciliter tout ça, puis faire un outil qui est capable
d'englober tout ça.
Exactement, puis de faire la job pour nous, pour que ça devienne, dans le fond, un copy-paste là, de numéro de pixel, puis that's it, on n'a rien à faire. Puis c'est vraiment là qu'on a eu l'idée pour développer, justement, Soco.
Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Soco, en ce moment, si tu avais à le résumer, si tu avais à expliquer ça aux gens, comment tu le résumerais en quelques phrases?
Oui. En fait, Soco, si vous êtes familier avec du remarketing, donc quand vous allez dans un site web, vous allez avoir des publicités de ce site-là. Nous, on utilise le remarketing, mais pour tous les sites possibles. Donc, le meilleur exemple, Facebook est capable de dire qui tripe sur des autos, mais il n'est pas capable de dire qui veut s'acheter une voiture, par exemple. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un réseau de publishers. Prenons, par exemple, Auto 1, 2, 3, où est-ce qu'il y a des gens qui vont dans ces sites-là pour faire des comparatifs de voitures. Donc, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est récupérer cette audience-là et se recibler cette audience-là directement sur Google ou Facebook. Donc, au lieu de juste de cibler les gens qui sont fans d'automobile ou n'importe quoi, on cible les gens qui sont dans un processus d'achat d'automobile. Donc, ça fait un ciblage qui est de meilleure qualité ou ce qui a moins de permédia. Donc, ce qu'on vient vraiment bonifier, c'est le ciblage qu'il y a au niveau de Google, Facebook et aujourd'hui LinkedIn aussi.
Merveilleux. Puis ça, cette entreprise-là, moins d'un an qu'elle a été créée. Cette fois-ci, c'est pas uniquement un outil que RESAC va utiliser, c'est une entreprise qu'on va commercialiser. D'ailleurs, ton collègue Jean-François, je pense, il est venu à nos bureaux il y a quelques semaines de ça pour nous parler de la solution, une solution qui est très intéressante. Avant qu'on rentre spécifiquement dans comment que se passent les opérations chez Soco, moi j'ai une question. Vous n'avez pas peur un peu des joutes légales qui entourent ça? Facebook a une règle sur son site qui n'autorise pas la vente d'audience. Est-ce que c'est un peu ce que vous faites? Comment vous travaillez avec cette joute légale-là?
Ouais. Nous, quand on a parti ce truc-là, c'était super important qu'on ait une bonne conformité, là, qu'on s'assure qu'un Google ou Facebook n'arrive pas et nous shut down le lendemain. Donc, comme je t'ai dit, nous, on est appuyé par du capital de risque. Puis le capital de risque, naturellement, comme n'importe quel entrepreneur va faire son due diligence qu'on appelle, puis ses vérifications. Donc, c'était important pour nous qu'il y ait cette vérification-là également. Fait que nous, on a le green light de Google et de Facebook pour cette technologie-là, parce que la technologie qu'on utilise, puis même pour, par exemple, en Europe, on peut l'utiliser également, même avec toutes les règles qui vont arriver, d'ailleurs, très prochainement au Canada aussi.
Exactement, oui.
Au niveau de la confidentialité.
Faut être prêt.
Oui, nous, notre solution est déjà prête, puis d'ailleurs, elle est déjà commercialisée aussi en Europe. Une des raisons qui explique ça, c'est que, puis je veux pas rentrer dans le détail technologique, mais nous, où est-ce qu'il y a des brèches potentiellement de sécurité, c'est vraiment quand il y a, par exemple, un emmagasinage des données. Mm-hmm. Quand on emmagasine des données dans un endroit central. Soco, de la manière que c'est fait technologiquement, puis c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on garde absolument rien. Nous, ce qu'on établit, là, c'est une relation, mais il n'y a pas de stockage qui se fait de notre côté. C'est qui nous permet d'être clean à ce niveau-là.
Selon Facebook et Google.
Exactement, avec le due diligence qu'on a fait et les clients aussi qui font du due diligence. On a des gros clients, par exemple, qui vont l'utiliser, qui ont déjà des liens d'affaires avec Google et Facebook par le volume d'achat qu'ils ont. Puis c'est un green light des deux côtés. Fait qu'on est très content de
vous êtes correct là-dessus.
Absolument.
Donc, les gens qui veulent utiliser autant sur Facebook que sur Google des audiences de gens qui, au lieu d'être peut-être intéressés, sont clairement intéressés, on s'entend.
Ouais.
Quelqu'un qui s'en va sur Auto 1, 2, 3 pour regarder pour une voiture, habituellement, est plus sérieux dans son intention d'achat de quelqu'un qui ne l'a pas fait.
Absolument.
Donc, allez voir Soco, je pense que c'est une belle organisation. Tu as mentionné, Pablo, un truc très intéressant. Soco est backé par du capital risque. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plus de sérieux qui a été mis derrière Soco que derrière Claire. Je pense que vous avez plus de confiance maintenant. Donc, parle-moi un petit peu de ça. Vous avez été capable de lever du capital risque, de lever de l'argent pour financer Soco?
La manière qu'on a commencé à travailler là-dessus, c'était qu'on a commencé à mettre de côté, quand on a vu qu'il y avait quelque chose de sérieux, puis une demande, puis vraiment une possibilité par rapport à notre croissance, puis par rapport à l'opportunité avec des clients. On s'est dit, comment qu'on fait pour développer ce truc-là? Puis au début, là, je te dirais, j'avais mis une équipe. J'ai dit, OK, guys, qui va embarquer dans ce projet-là? J'ai identifié des personnes qui avaient un intérêt, puis il y avait aussi le skill set pour nous aider justement à développer ça. Puis je suis arrivé avec, je te dirais, le pire scénario. J'ai dit, guys, vous allez faire ça part-time le soir, la fin de semaine. Personne n'a le temps de faire ça. Puis ça, la fin de semaine, tu ne veux pas nécessairement travailler sur un startup pour le faire monter.
On s'entend.
Fait que ça, c'était quelque chose qu'on a fait pendant quelques mois. Ça l'avançait tellement pas vite que j'ai dit, OK, regarde, si je suis vraiment sérieux là-dessus, ce que je fais, je vais isoler deux personnes de l'agence qui vont travailler sur aucun projet de l'agence. Donc, il y a comme genre vraiment un firewall, là. Ces personnes-là sont pas là. Ils ne sont plus dans la compagnie. Ils l'étaient naturellement d'un point de vue administratif. Puis ces gens-là vont se concentrer justement à builder un prototype. Un prototype qui va nous permettre éventuellement d'aller voir des investisseurs pour qu'ils puissent voir puis dire, OK, wow, c'est vraiment cool. Je veux investir là-dedans. Parce que juste avoir une présentation, it's not enough. T'sais, il faut que tu aies une tech ou une technologie ou quelque chose qui risque d'être juste un scalable. T'sais, je
prends mon sens. On s'entend, qui vaut la peine d'être investi.
Exactement. Fait qu'on a isolé ces personnes-là. Ils ont commencé à développer un prototype. Le prototype, on a réussi par l'avoir. Fait qu'on est allé pitcher à différents fonds d'investissement. On a appris énormément comment ça fonctionne en même temps sur le tas, faire du fundraising.
C'est un autre business.
C'est un autre business complètement différent. Puis ça a très bien fonctionné parce que après avoir fait plusieurs meetings, on a eu un intérêt vraiment très fort de la gang de Real Ventures, qui est le fonds le plus important au Canada, qui est derrière justement les Frankenoak, Breather, Lightspeed, etc.
Lightspeed, oui, exact.
Toutes ces gangs-là, fait que c'est quand même du très bon calibre. Puis il y a un fonds qui s'appelle Orbit Montréal. Soco a été accepté dans ce fonds-là. Ce qui a permis aussi de générer de l'attraction puis de l'intérêt d'autres investisseurs également au niveau privé.
Puis, corrige-moi si je me trompe, mais souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. S'il faut juste qu'il y en ait un qui démontre un intérêt, que là, les autres s'empressent puis veulent rentrer dedans avant que la prochaine ronde soit beaucoup plus dispendieuse à investir. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé.
Exactement. Ce que tu veux, c'est créer, OK, c'est vraiment the next thing. Fait que tout le monde se garoche dessus.
Exact.
Puis ce qui est difficile, c'est d'avoir ton premier investisseur. Puis encore une fois, là, je remercie énormément la confiance que Real Ventures a eu en nous. Parce que c'était vraiment le premier investisseur, puis ça l'a fait en sorte que tous les investisseurs qui étaient ah ouais peut-être si lui embarque, ben là maintenant ils ont tout embarqué. c'est ça
qu'on devient l'effet domino un peu.
C'est un effet domino. Puis pour les prochaines rondes, ça l'aide également aussi par la suite. Tu sais, fait que c'était vraiment très cool qu'est-ce qui est arrivé avec ça.
Fait que vous avez été capable de lever de l'argent avec Real Ventures et par la suite d'autres investisseurs qui sont rentrés. Là, bon, t'as plus de fonds, t'as plus de latitude pour aller travailler sur ce projet-là. Comment que ça fonctionne maintenant, Soco, après moins d'un an, vous en êtes où? Puis, c'est quoi les plans d'expansion?
OK. Ben, c'est donc, une fois qu'on avait nos sous, on était capable d'opérer genre vraiment très minimum avec ce qu'on avait déjà. Mais quand on a commencé à avoir nos sous, on a commencé à développer l'équipe. On a besoin d'une équipe, par exemple, de vente. Fait qu'on a développé ça pendant cette année. Puis, c'est important pour nous aussi de signer des publishers. Plus qu'on a de publishers, ben mieux que c'est parce que tu as plus d'agences qui vont aller chercher des audiences, etc.
Parce que toi, tu as besoin de publishers, donc de gens qui ont des grosses audiences, beaucoup de trafic sur leur site, pour par la suite donner envie à, disons, des agences comme nous, G7 Media, d'aller acheter ces audiences-là.
Exactement. Puis je te dirais que le défi, puis il y a un terme dans les startups qui est très populaire, c'est le mot pivot. Pivot, c'est quand tu dis, OK, le produit est bon, mais on peut-tu pivoter pour faire quelque chose d'encore meilleur? Il y a peut-être un core sous-produit là-dedans qui est encore mieux que les autres. Puis on a réussi à pivoter au milieu de l'année à peu près pour quelque chose d'autre qui est encore complémentaire à notre offre originale. Donc, mais dans l'offre originale, la manière que ça fonctionne, c'est un marketplace. Donc, toi, par exemple, en tant qu'agence, tu t'en vas là-dedans, tu vois tous les publishers qui sont là, tu dis, ben, je veux l'audience de ce publisher-là. Tu mets ton pixel Facebook, tu fais ta transaction, donne, c'est dans ton custom audience Facebook. Ça, ça prend pas de temps, c'est rapide. C'est streamliné. Tu n'as pas besoin de te contacter un vendeur ou quoi que ce soit. Tu peux en faire une maintenant là, puis aller chercher des gens. Ça, c'est aucun problème. Par contre, pour que ce soit pertinent pour une agence d'aller là-dedans chercher des audiences, ça prend une masse critique. Tu ne peux pas aller dans chez Soco et te dire ben, « mais je veux des audiences qui tripent sur les autos à Montréal puis il y a juste à avoir un site. » Tu en as besoin de plusieurs. Tu as besoin d'un inventaire. Mm-hmm. Fait que, veux pas, quand on développe le marché, par exemple, canadien, on y va de manière régionale. Fait qu'on va commencer par les plus gros publishers au Québec. Après ça, il faut aller dans le reste du Canada. Et ainsi de suite, on expande de plus en plus. Fait que okay. C'est la même chose, c'est un effet domino. Plus que de publishers dans une région, plus que les autres veulent embarquer également. En date d'aujourd'hui, le nombre de publishers différents qu'on a à voir dans Soco, c'est à peu près 120, 130. Intéressant. Avec des super bons noms, puis oui, autant des Protégez-vous, des Urbania de ce monde, qu'est-ce qu'on a d'autre, des 3 fois par jour, il y a de tout, tu sais, vraiment là.
Puis par curiosité, parle-moi un petit peu du modèle d'affaires de Soco, parce que je pense que plusieurs possibilités. On s'entend, les publishers, s'ils mettent leur audience là-dessus, doivent avoir une certaine rémunération. Absolument. Si des agences la prennent. Comment que ça fonctionne après si on est une agence puis on veut acheter ces audiences-là?
Oui, on a un modèle de share revenue, fait que l'agence va aller acheter, par exemple, l'audience de 3 fois par jour. Définir un nombre spécifique. Ça peut être, par exemple, tu es Olimel et tu dis « je vais tout cibler les recettes de poulet qui sont sur 3 fois par jour ». Tu peux.
OK.
Notre technologie permet de dire, mettre un mot-clé, de dire ben, « dès qu'il y a le mot poulet dans une recette, boum, puis les gens consultent cette recette-là, on va aller chercher cette audience-là ». Fait que toute cette audience-là va commencer à rentrer dans ton pixel, puis nous, on va charger un montant X qui de l'ordre qui peut aller de 2 sous à 15 sous, tout dépendamment de la qualité de l'audience qu'on va avoir là-dedans. Et normalement, l'argent qui est collecté pour cette audience-là, on fait un share revenue avec le publisher.
Okay.
Ce qui est important à mentionner, c'est que la majorité de ces investissements-là ou des revenus qui sont générés vont directement au publisher.
Vous êtes comme un marketplace. Vraiment le même modèle d'affaires qu'un marketplace.
C'est un marketplace. Okay. Fait que ça, pour nous, ça a super bien fonctionné. C'est encore là. N'importe quelle agence peut y aller. Allez l'essayer. Tu sais, mettez un 500$. Ça fonctionne. Vous allez voir, ça va fonctionner. Puis dans la plupart des cas, surtout si vous faites du e-commerce ou des gens vous cherchez des gens spécifiques qui sont dans un processus d'achat. C'est vraiment bon. Si vous êtes en mode, je veux cibler le plus de gens possible, ben, fais-le avec Facebook. Mais si tu veux savoir, je veux cibler les gens, les jeunes mamans qui viennent d'avoir un bébé, on est capable d'aller chercher. Tu sais, ça, c'est le genre de truc qu'on...
Je pense le bon exemple qu'on pourrait donner, la bonne comparaison, tous les gens qui vont faire un peu de la publicité sur Facebook, qui peuvent nous écouter aujourd'hui, savent que quand tu fais de la publicité et que tu utilises des audiences de remarketing, de retargeting, souvent ton coût d'acquisition est drastiquement plus bas que si tu utilises une audience très large. C'est un peu ça l'image qu'on pourrait donner. Vous allez juste avoir des audiences de remarketing un peu.
Exactement. T'sais? C'est du remarketing. C'est comme ça, des audiences de remarketing. C'est une bonne manière de le résumer. Fait que, un des trucs, par contre, qu'on s'est rendu compte, c'est que on était capable de signer énormément de publishers. Ça, il n'y avait pas de problème.
Oui, ils embarquent direct.
Ils embarquent direct parce que tu te dis, est-ce que tu veux un revenu passif? Ça ne vient pas chercher ton inventaire, ça se fait behind the scenes. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de mettre un pixel dans ton site, puis à la fin du mois, tu reçois un chèque. Oui. T'sais, of course, free money. Fait que, comme je disais, on a fait un pivot peut-être il y a quelques mois, à peu près moitié de l'année, parce que ce qu'on avait comme difficulté, c'est de signer des gros publishers. Les gros publishers...
Une crainte ou ils n'étaient pas tellement sûrs de savoir si ça peut fonctionner? C'était quoi leur...
Les Urbania, les 3 fois par jour, c'est du moins qu'ils sont lean, qui comprennent. Let's go, mettez le pixel. On leur dit, ils le mettent un après-midi. S'ils n'aiment pas ça, ils l'enlèvent. Il n'y a pas de problème. Mais les plus gros ont souvent des forces de vente. Une équipe de vente, imagine-toi, tu as 10 vendeurs. Puis nous, on a une plateforme qui est self-serve. Tu n'as pas besoin de vendeurs, tu n'as besoin de rien.
C'est la politique qui rentre là-dedans.
Exactement. Puis les vendeurs, dans n'importe quel gros publisher, ils font une offre. Ils vont dire, OK, on va faire du contenu natif, on va faire de la bannière, on va faire du newsletter, n'importe quoi. Mais il n'y a pas nécessairement d'offre de performance. Ça n'existe pas vraiment là. Fait que nous autres, on est arrivés et on s'est dit, comment qu'on fait pour aller chercher ces gens-là qui ont quand même besoin, mais sans devenir quand même un compétiteur. Donc, on a fait Soco, version entreprise, qui s'appelle Soco SFP, Soco for Publishers. Puis c'est vraiment une version entreprise. Donc, si tu vas aller chercher l'audience à un grand publisher québécois, par exemple, ben tu pourras pas le trouver dans ton marketplace. Mais si tu contactes l'équipe de vente, eux autres, ils vont pouvoir te la vendre directement. Fait que ça, c'est devenu, eux autres, ils peuvent la monétiser, ils peuvent la vendre de différentes manières. Est-ce qu'ils la mettent dans un bundle? Est-ce qu'ils la mettent et te la vendent directement? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur donnait la facilité et la technologie qui était nécessaire qu'ils n'avaient pas chez eux. Puis tu sais que les grandes entreprises, ils pourraient le faire de manière manuelle. Ils pourraient juste prendre un pixel que toi t'envoies puis dire, ben mettez-le, mais tu sais combien de temps que ça prend avec du IT dans une grande entreprise, ça peut prendre un mois avant qu'ils le fassent. Nous autres, ils peuvent le faire honnêtement en 20 secondes. Tu sais, c'est fait. Fait que ça, c'est vraiment où est-ce qu'on est rendu, puis c'est ce qui nous a ouvert la porte à la vente partout dans le monde.
Donc, moins d'un an maintenant que Soco est lancé. Je suis curieux combien d'employés, comment que ça se passe? Sept employés. Puis, ben moi, je connais bien où sont situés puis comment fonctionnent vos bureaux, mais vous autres, vous avez été capables, c'est ça qui est intéressant, d'avoir un gros local RESAC et de mettre à certains endroits des équipes comme Soco, à un autre endroit, je pense qu'il y a d'autres personnes qui travaillent. Donc, ils ont comme plusieurs organisations et un bel écosystème à vos bureaux de Montréal.
Ben, tu me disais, qu'est-ce qui était important pour nous de faire ce projet-là? Ben, on n'a pas décidé de faire un café ou un restaurant, par exemple. Ce qu'on a fait vraiment, c'est quelque chose qui avait rapport avec notre business.
Exact.
On a fait quelque chose qui répondait à un problème très spécifique d'audience que notre équipe média, comme les équipes médias de n'importe quelle agence, vont avoir également. Fait que c'était important pour nous de faire quelque chose qui était cohérent. Clair, au niveau des médias sociaux, c'était quelque chose de cohérent. Soco, c'est aussi quelque chose de cohérent là-dessus. Fait qu'on a cette cohérence-là également dans nos bureaux, dans notre écosystème.
Mm-hmm.
Fait qu'effectivement, on a un grand espace quand même dans le Mylan où est-ce qu'il va y avoir l'agence, RESAC. De l'autre côté, il y a quand même une division avec un mur, mais toujours avec une entrée. On a notre espace de formation qui s'appelle l'ambassade qu'on vient de lancer ce mois-ci-ish, à peu près. En arrière de ça, on a la gang de Soco, puis aussi l'autre gang qui est notre partenaire de production vidéo qui s'appelle La Corp. Tu sais, fait que, puis on ne veut pas dans le web, il y a de plus en plus de vidéos, etc.
Ah, c'est un bel écosystème, là, vos
bureaux. Fait qu'on est vraiment très intégrés, mais c'est tous des business qui ont un focus parce qu'ils ont quand même une certaine indépendance, mais oui, une synergie au niveau de la stratégie, là, vraiment, qu'on veut mettre en place pour des clients.
Intéressant. Puis, ça m'amène à mon autre section, mon autre sujet que je veux parler un petit peu avec toi, Pablo, parce que là, une belle histoire à succès qui commence à prendre forme, Soco. Claire, dans un autre aspect, ça a été un peu, l'idée, l'étincelle qui a fait que tu as été capable d'incuber d'autres projets. Moi, je veux savoir maintenant l'impact que ces différents projets-là ont eu sur RESAC et j'ai plusieurs questions à te poser. Tu as mentionné quelque chose. On n'allait pas lancer un café, on n'allait pas lancer un restaurant parce que ça faisait pas partie de notre core business, de ce qu'on connaissait, de ce qu'on aimait.
Right.
Moi, j'aimerais que tu me dises, quelqu'un demain matin qui a une organisation, il aime son organisation, mais qu'à l'intérieur de ça, il aimerait peut-être lancer d'autres projets. Selon toi, quelles sont les choses qu'on doit absolument éviter ou absolument faire si on décide d'incuber un projet à l'intérieur d'une organisation?
Ben, je réitère quelque chose qui a une certaine cohérence ou qui donne de la valeur à ce que tu fais déjà. Parce que même si ton projet ne fonctionne peut-être pas au niveau commercial, il va peut-être te donner un certain avantage compétitif parce que tu as osé faire ça. Fait que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc, il y a un problème. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des défis. Quand on travaille, surtout en agence ou dans n'importe quelle entreprise, il y a un irritant. Est-ce que tu es capable de résoudre cet irritant-là? Puis si tu es capable de le résoudre pour toi, ça se peut que cet irritant-là soit quelque chose que d'autres personnes dans cette situation ont également subi ça tous les jours. Donc, si tu es capable de donner une solution à ce problème-là, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui peut être très intéressant. Deuxième chose, important de que ce soit pas « Hey, on va faire, c'est de l'innovation, on fait ça après les heures de bureau en mode 5 à 7. » Ça marche. Fuck all, excuse-moi l'expression, là, mais ça marche pas du tout. Il faut vraiment que tu ailles du temps dédié à des ressources qui vont ne faire que ça.
Intéressant.
Puis ça, c'est pour moi, là, ça a été clé. Dans le temps qu'on a fait, par exemple, Claire, la manière que ça a fonctionné, comme je te l'ai dit, on a vraiment mis les bouchées d'eau. On avait une équipe de dev qui était toute la journée là-dessus, puis notre équipe était quasiment à 90% là-dessus. C'était leur focus premier de faire ça.
J'en doute même pas.
Donc, qu'est-ce qui est important aussi là-dedans pour soutenir tout ça? C'est du cash. Il faut que tu ailles assez de cash à un certain point pour dire, est-ce que je peux me permettre d'avoir une, deux, trois, quatre personnes qui vont pas travailler pour l'agence pendant un, deux, trois, quatre, cinq mois, le temps qu'on fasse un prototype?
Mm-hmm.
Puis ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce que tu es en train de prendre un risque financier puis des fois, on est très serré. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a réussi à faire pour amortir ce risque financier-là? C'est profiter au maximum possible des crédits d'impôt que tu as, par exemple, avec la recherche et le développement. Je te le dis tout de suite, là, les compagnies technologiques, les compagnies de jeux vidéo sont extrêmement bons pour tu sais, les compagnies de jeux vidéo...
En même temps, ils ont droit. On s'entend que le R&D, ça va plus être pour les entreprises qui vont créer un prototype technologique.
Exactement, exactement.
Quand tu vends du service, c'est plus compliqué.
C'est exactement ça. Fait que nous, ça l'a fité. Fait qu'on s'est dit, ben ces personnes-là vont développer un produit, puis on va commencer à le documenter parce qu'on va aller faire des claims d'R&D par la suite. Puis ça nous a permis un certain, je dirais, à amortir ces coûts-là.
Je comprends.
Fait que ça, c'était important pour nous pour le faire. Puis après ça, après, quand tu le fais un an, deux ans, trois ans, tu sais à peu près comment ça fonctionne puis comment optimiser vraiment tes ressources et ton temps là, pour tirer le maximum justement de ça là, puis de ce programme-là qui est super intéressant pour nous, là, Je le ferais encore sans ce programme-là, mais c'est sûr et certain que peut-être ça serait moins rapide moins
plus concis également.
Ah, absolument.
Puis ça m'amène à mon autre question que tu l'as mentionné, qu'on met du temps, qu'on met des gens à temps plein qui font ça. Moi, la question que je te pose, si des agences ou même d'autres entreprises qui ont envie d'incuber des projets demain matin à l'intérieur de leur organisation principale, est-ce que tu leur recommandes de le faire en utilisant des employés qu'ils possèdent déjà ou d'aller en chercher d'autres à l'externe qui ne faisaient pas partie de l'organisation principale?
Des fois, c'est mieux de quasiment pogner à l'externe.
OK.
Ouais.
Pour quelle raison, je suis curieux?
Oui, mais parce que l'externe a une autre perspective différente de toi. Il y a comme du fresh qui arrive en même temps. En même temps, ça prend quelqu'un qui est initiateur de l'idée, là, qui est capable d'être le goalkeeper de tout ça. Puis aussi, c'est la sollicitation. C'est très facile. Puis moi, je me rappelle, tu sais, on avait un designer qui s'appelle Charles. Salut Charles, qui est encore chez Soco. Ça fait vraiment longtemps qu'on roule notre boss ensemble. Mais quand on disait, ben toi, tu travailles juste dans le prototype de Soco, ben c'est extrêmement tentant quelqu'un qui est assis à côté de toi d'aller le solliciter pour quelque chose d'autre. Hey, peux-tu, je vais pas prendre de ton temps, mais tu peux juste checker ça. Peux-tu juste checker ça là, cumulatif là dans la journée là, ça fait des heures à un moment donné que la personne travaille pas dedans. On se garde une petite gêne quand on connaît moins la personne. C'est okay. Ça l'affaire.
Intéressant.
Je te dirais là qu'une combinaison, ça serait quand même assez important. Où l'important, c'est garder un focus. Si tu as un prototype qui doit être développé, ça prend un dev, ben ton dev, là, mets-le, prends-le de l'externe ou peu importe, puis mets-le à travailler là-dessus à 100%, puis personne ne va le solliciter. T'sais.
Intéressant. Tu as mentionné un point.
Ouais.
Focus.
Ouais.
Moi, je veux savoir, on est en train de parler présentement de qui qu'on choisit pour, on va dire, entre parenthèses, runner ces entreprises-là. Toi, ton focus maintenant, en ayant, on va dire, deux projets, RESAC qui continuent à avoir une belle croissance chaque année,
ouais.
Soco qui tranquillement commence à sortir la tête de l'eau. Toi, ton focus, c'est où présentement? Est-ce que tu chapeautes les deux projets ou est-ce que tu en chapeautes un précisément?
C'est le défi de 2018 pour moi, parce que j'ai d'un côté une agence qui est en croissance, puis de l'autre côté, j'ai un produit aussi qui est en croissance. Puis, comme je te dis, le principal défi pour moi, c'est quand je pense d'un local à l'autre, c'est changer mon brain. Il faut vraiment changer mon brain, parce que tu penses d'un brain, comme je te dis, qui est d'un business de service,
à un marketplace.
Qui a plus d'employés, qui a une réputation, qui a une culture, justement, qui est vraiment super cool, très friendly, très ouverte, à un autre qui est vraiment plus croissance-driven,
mm-hmm.
où est-ce que tu as des investisseurs, où est-ce que tu dois rendre des comptes, etc. De l'autre côté, moi, j'ai pas besoin de rendre de compte à personne. Tu sais, chez RESAC, là, je suis le seul actionnaire. C'est assez simple. Mais de l'autre côté, tu as des partenaires, tu as des investisseurs, etc. Puis ta mentalité est complètement différente. Fait que je sais pas comment de finir le temps, mais j'essaie d'être là où est-ce que je suis le plus pertinent possible. Et le plus pertinent possible où est-ce que je suis dans les deux côtés, c'est au niveau justement de par exemple du développement d'affaires, au niveau de la vision du produit, puis l'amener vraiment ailleurs, au niveau de la croissance dans les deux. Ça m'a permis énormément d'apprendre des deux côtés.
OK.
J'essaie de plus en plus d'appliquer des réflexes de startup à RESAC.
Je comprends.
Soco, qu'est-ce que ça donne aussi à RESAC? C'est deux boîtes qui sont distinctes, ce sont deux boîtes qui sont super indépendantes de leur côté. Mais quand les clients nous disent « Avez-vous une technologie? » Dire « Ouais, on utilise Soco, c'est nous qui avons créé cette technologie-là à l'origine. »
Tu peux l'intégrer.
Mais c'est une boîte indépendante, tu fais. Mais ça démontre une certaine confiance de dire « OK, mais si on réussit à penser à ça, ça veut dire qu'ils ont peut-être des super bonnes idées pour d'autres trucs ici. »
Intéressant.
Ça, c'est, les deux nous valorisent vraiment. Puis c'est difficile à dire, comme je te dis, quand je vais voir un client, si j'ai mon chapeau de Soco ou de RESAC, j'ai vraiment plus mon chapeau d'entrepreneur à ce niveau-là, puis j'essaie de faire la croissance, une synergie vraiment entre les deux, mutuellement. Là.
Super intéressant. Puis, on en a parlé un peu, mais j'aimerais qu'on réitère ce point-là. Est-ce que on va dire surtout Soco, parce que je pense que Claire, ça a surtout été ouais. créé pour aller chercher d'autres clients. Donc, Soco est définitivement un projet qui est commercialisé. Est-ce que ce projet-là, à un certain point, a pu ralentir la croissance de RESAC ou peut-être même d'un autre côté l'accélérer? Parce qu'on s'entend, ton focus n'est plus au même endroit autant qu'avant, il est séparé. Donc, c'est quoi l'impact que Soco a pu avoir sur RESAC?
Soco a accéléré la croissance.
OK.
Ouais. Puis ça peut paraître bizarre quand je dis ça, mais le fait que je suis présent dans Soco, donc je ne suis pas dédié à 100% à RESAC, ça fait en sorte que ça t'oblige à aller chercher du monde de meilleure qualité chez RESAC.
Ah, ça, c'est intéressant.
Ouais, effectivement. Fait que là, à ce niveau-là, tu peux pas dire, ben ça va rouler tout seul. Oui, ça roule tout seul. Ça va rouler tout seul sans problème au niveau administratif. Aller gérer les clients, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça te prend des gens qui ont beaucoup plus de seniorité, beaucoup plus d'indépendance, qui sont capables de prendre des décisions, puis toi, qui sont capables de donner un compte rendu de ces décisions-là avec une recommandation. Fait que ça m'a poussé vraiment à bonifier mon équipe de seniors. Puis c'est vraiment ça la tangente qu'on a pris chez Ressac dans les derniers mois, de dire, OK, on a une super belle équipe, comment qu'on fait pour augmenter la seniorité, les connaissances du marché, la connaissance au niveau administratif, la connaissance du business, puis c'est aller chercher ça. Puis on notre pool maintenant, justement, de au niveau de la direction, nos chefs d'équipe, ils ont vraiment cette seniorité-là puis qui me donne extrêmement confiance. Fait que
j'ai compensé. Pas le choix. C'est ça qui est arrivé. T'avais pas le choix. Tu dis, garde, si je veux que Soco fonctionne, je peux pas faire en sorte que Ressac tombe du même coup. Fait que ça t'a poussé à faire des choses que.
Oui, ben peut-être que j'aurais été. Si j'avais été 100% Ressac, j'aurais été. Ah, ben je vais engager un senior. Fait que là, on commence à parler, etc. Puis on essaie de faire. Puis il va y avoir une croissance. Mais le fait que j'en pogne trois d'une shot, par exemple. Puis le fait que moi, je suis là pour les décisions super importantes au niveau du développement d'affaires, c'est des têtes différentes qui ont une expérience, qui sont capables de t'amener une vision différente. Puis ça fait augmenter, je pense, vraiment la croissance.
Intéressant.
Fait que c'est un peu ça. Là. Fait que ça l'a fait comme une conséquence positive à ce niveau-là. Là.
Puis, dernière question que je te pose par rapport à l'impact que Soco surtout a eu sur Ressac. Moi, je veux savoir, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, Pablo, ça fait 12-13 ans que tu as Ressac, tu as incubé plusieurs projets, certains ont été commercialisés, d'autres non.
Ouais.
C'est quoi que tu ferais différemment aujourd'hui si demain matin ensemble, tu dis on lance un nouveau projet, on incube un nouveau projet, qu'est-ce que tu ferais différemment avec toute l'expérience que tu as été capable d'avoir, d'acquérir à travers les années?
Au niveau des produits, je te dirais que d'être beaucoup plus agile au niveau du cash. Ça, c'est extrêmement important parce que, par exemple, le côté clair, par exemple, qu'on a fait, on était au courant qu'il y avait des crédits R&D, mais on s'est dit, on n'a pas rapport là-dedans. Tu sais, ça, c'est juste pour les grosses, les CGI ou les grosses boîtes technologiques, mais on avait absolument le droit. Fait que ça aurait pu nous faire un fonds pour tout le cash puis le temps qu'on a mis là-dedans pour développer ça.
Pour le commercialiser.
Fait que ça, c'est dès le début, là, avant que tu lances un projet, regarde c'est quoi déjà ce que tu as besoin. Puis d'être super organisé avec la documentation que tu vas devoir soumettre. Parce que tu ne veux pas arriver un an plus tard puis dire je soumets mon projet pour la recherche et le développement, puis demande des banques d'heures pour savoir exactement où est-ce que tu as mis ton temps, puis dire qu'est-ce qu'on avait fait au mois de janvier. Tu veux documenter ça dès le début. Fait que ça, c'est un setup là, qui est super important, d'après moi,
Parce que, de toute façon, les gens, souvent, au Québec, on se plaint qu'on paye trop d'impôts, mais à un point tel, m'amener que
absolument.
L'impôt qu'on paye est pour des programmes comme ça.
Absolument.
Donc, il faut prendre la peine d'aller faire des recherches puis de savoir que ces programmes-là existent. Parce que si on est capable de sauver des dizaines, des centaines de milliers de dollars à la fin de la journée, on dira pas non.
Exactement. C'est exactement ça. Mais renseignez-vous. Tu sais, il y a plein de programmes, n'importe quoi. Puis moi, j'ai retrouvé ces programmes-là, c'est pas ma tasse de thé. Mais j'ai un fiscaliste là, qui j'engage. Je lui dis, OK, check, moi, ce qu'on veut faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a ça. Parfait, let's go.
Je voudrais terminer, Pablo, avec des petites questions personnelles. On a parlé beaucoup du volet business aujourd'hui. C'était super intéressant. Moi, je voudrais savoir, il y avait mon bon ami Robin, quand il travaillait avec le podcast Hypercroissance, il terminait avec ce qu'on appelle la ronde éclair. Donc, c'est des petites questions personnelles que j'aimerais te poser. Je voulais savoir, est-ce que tu lis un peu, toi? Est-ce que tu aimes la lecture?
Oui, ça dépend quoi, mais oui.
C'était quoi un livre, si tu pouvais nous partager ça, qui a peut-être impacté ta vision des choses, ta vision business des choses?
Sapiens.
OK. Je connais pas. Parle-moi donc un peu de ce livre-là.
Sapiens, c'est un livre qui a sorti à peu près il y a 2-3 ans. C'est trois tomes. Ça, c'est le premier Sapiens. C'est vraiment l'origine. C'est l'histoire du monde. C'est l'histoire de l'origine des espèces, où est-ce qu'on est rendu, etc. Puis il y avait un passage qui était super intéressant pour moi. La prémisse, c'est qu'il y a eu plusieurs types d'humains qui habitaient en même temps sur la planète Terre. On a l'impression qu'on est une évolution, tu sais, qu'il y a eu l'Homo erectus, l'homme de Néandertal, puis après ça, l'Homo sapiens. Mais c'est pas du tout le cas. C'est que toutes ces espèces-là étaient en même temps sur la Terre parce qu'ils sont capables de découvrir maintenant, tu sais, avec les ossements, etc., puis l'âge, qu'il y avait tout ça. Mais pourquoi l'Homo sapiens est la seule espèce maintenant, tu sais? Puis oui, il y a des trucs d'extermination, etc., mais l'Homo sapiens, il y a une capacité que les autres espèces n'avaient pas. C'est la capacité de rassembler beaucoup de personnes. Normalement, des singes ou des anciens humains, quand ils ont trouvé des ossements, c'était des groupes de 10 qu'on trouvait, 10-12 personnes. Mais chez les Homo sapiens, c'est des cimetières avec des centaines de milliers de personnes qu'on trouvait. Pourquoi? Puis le numéro un truc, c'est le storytelling. L'Homo sapiens croit énormément au storytelling, à la fiction, tu sais, d'embarquer dans une histoire parce qu'on est capable d'embarquer beaucoup de personnes ensemble. Le côté, par exemple, de dire on est pareil parce qu'on a la même religion, mais c'est comme un storytelling où ce que les gens vont embarquer. On est pareil parce qu'on vient du même pays, fait qu'on invente un petit peu une histoire d'un pays à un certain point, puis on est capable de dire, même avec la personne que tu connais pas à l'autre bord, t'es capable de dire on a quelque chose en commun, on croit la même histoire. Donc, les autres espèces, il n'y avait pas ça. Fait que la puissance du storytelling, de raconter des histoires, a été extrêmement importante pour moi. Fait que oui, on est très rationnel dans notre domaine au niveau du numérique, mais il ne faut pas oublier la manière qu'on va présenter cette information-là puis connecter avec des gens. Est-ce que ce qu'on est en train de rencontrer en ce moment est une bonne histoire ou pas? Ça a changé ma perspective dans tout, surtout au niveau du pitch.
Surtout que tu as eu à le faire avec les rondes d'investissement que tu nous as parlé. OK. Fait que ça a été le livre qui a changé un peu ta manière de voir les choses à certains aspects. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Et si oui, y a-tu un podcast en particulier que tu aimes plus que les autres?
J'aime beaucoup le podcast de TED.
OK.
Que j'écoute pour aller courir. Fait que ça, c'est un que j'aime beaucoup.
Intéressant. Puis dernière chose que je te pose, qu'on pose souvent comme question, y a-tu un mantra que toi, tu vas tout le temps te dire à chaque jour quand tu vas faire des affaires ou que, encore une fois, tu vas dire peut-être à ton équipe une chose qu'on doit respecter, une phrase qu'on doit respecter, une vision qu'on doit respecter que tu vas utiliser au day-to-day?
Ah, c'est une bonne question. J'en dis tout le temps. J'ai tout le temps les mêmes affaires à peu près là. Mais je te dirais, je refocus un peu sur l'importance du storytelling. Ouais. C'est quand je vais voir des gens qui me font une présentation, je dis « OK, mais raconte-moi ton histoire. » C'est vraiment ça que je fais.
Je comprends.
Puis c'est vraiment ça, je veux qu'ils pensent en concept d'histoire. Puis même au niveau du data, quand tu vas présenter des rapports de performance, ces rapports-là doivent qu'on raconte une histoire également. Fait que je dirais là que à cause de ce livre-là, puis je me rends compte de plus en plus comment... on est capable de médiatiser les informations ou comme la manière qu'on va les amener,
oui.
Ça a un impact. C'est important le contenu, mais c'est aussi important le contenant.
100% d'accord.
C'est super important pour moi.
OK, fait que de travailler un petit peu sur le storytelling, ouais. Bonne chose, je pense que je vais m'en rappeler de celle.
Ou fake c'est... it before you make it, mais ça, c'est un classique.
S'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent,
c'est
celle-là.
Trop,
hein?
Ça. C'est trop.
Pablo Stevenson, merci énormément de ton temps. Si on veut savoir un petit peu plus sur RESAC,
ouais.
Sur Soco, où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut en savoir plus?
Checker notre Instagram, notre site qu'on va refaire, avec allez-y pas tout de suite.
pour RESAC?
Ouais, on va le refaire. Mais je dirais que si on voulait changer, puis je pense que tu es un habitué de la place, on a des événements qui arrivent à peu près tous les mois et
oui.
Demi ou 45 jours à peu près, qu'on a développé avec la communauté vraiment de ad managers à Montréal, qui s'appelle Montreal We Run Ads. OK, puis on se réunit, on a des speakers. Je pense que vous allez être prochainement aussi invités. Donc, où est-ce qu'on va? On a des agences ou des experts qui viennent nous présenter des cas d'études ou d'une vision, une certaine vision du marketing, où est-ce qu'on est rendu. On essaie de diversifier le plus possible, d'avoir autant des gens qui sont beaucoup avec un angle performance qui est important dans notre ère aujourd'hui, mais aussi d'avoir des gens qui vont nous parler de contenu, business model, etc. Donc, il va y avoir beaucoup plus de diversification dans le futur. Donc, tapez ça, Montreal We Run Ads. Il y a un site, c'est montrealwerunads.com. Puis, inscrivez-vous, puis venez au prochain événement. Comme ça, vous allez pouvoir échanger avec tout le monde.
Non, vraiment. Puis personnellement, je suis allé aux deux premières éditions. Puis, j'invite les gens à aller là-bas parce que, de un, il y a des bons speakers.
Ouais.
De deux, on peut faire du bon réseautage. Puis de trois, il y a de la bière aussi, fait que c'est quand même un bon endroit pour aller rencontrer des gens, surtout du monde du milieu, qui veulent en apprendre un petit peu plus sur le marketing numérique. Donc, je recommande à 100% aux gens d'aller au prochain événement We Run Ads.
Ouais.
Ça va avoir lieu
au mois de janvier et sans vendre la mèche.
Janvier 2019, ouais.
Ouais. Soit qu'on va voir quelqu'un, puis je vous dis peut-être les trois, mais peut-être quelqu'un de Facebook, peut-être quelqu'un de LinkedIn, ou peut-être quelqu'un de Pinterest.
Ah,
ou quelqu'un
c'est bon
de Google.
Ça.
Il y a un de ces quatre-là, le genre qui va être là-dedans. C'est cool. On
okay,
espère.
Nice.
Fait que c'est comme ça, t'avais pas pire.
Bon, ben, merveilleux. Merci beaucoup, Pablo. Je pense que j'ai très hâte qu'on puisse continuer ces discussions-là. Puis ça risque d'être au prochain événement. Donc, merci encore
merci
beaucoup de ton
toi.
Temps. C'est très gentil.
Merci beaucoup.
J'espère que vous avez aimé ma conversation avec Pablo Stevenson sur comment incuber des projets à l'intérieur de son organisation existante. Je pense que les points importants à retenir de cette discussion sont assez simples. De un, si vous désirez vous lancer un nouveau projet tout en gardant l'entreprise que vous avez actuellement, ne négligez pas les efforts que ça va prendre en termes de temps investi.
Travailler après les heures de bureau ou le week-end sur ce nouveau projet ne vous mènera pas très loin. Mettez-y du temps et de l'argent et par la suite, prenez des décisions à savoir si oui ou non vous allez continuer ce même projet. De deux maintenant, parlant d'argent, je pense que c'est le point le plus important qui est ressorti du podcast. Le succès d'une entreprise dépend souvent du timing et malheureusement, des fois le timing ne sera pas bon pour lancer un nouveau projet simplement car nos liquidités ne sont pas assez élevées. Pablo a même dû ne pas commercialiser son premier projet incubé par manque de ressources financières. Assurez-vous donc d'attaquer ce nouveau projet avec un rapport de force point de vue monétaire plutôt qu'un rapport de faiblesse. Pour terminer, je tiens à souligner que ce podcast est une présentation de J7 Media, une agence de publicité Facebook. Si vous désirez accélérer la croissance de votre organisation, je vous invite à vous rendre sur le site web j7media.com afin de demander une analyse gratuite de vos efforts actuels sur Facebook. Notre équipe se fera un plaisir d'analyser les 10 points primordiaux d'une stratégie à mettre en place sur Facebook et ce, je le répète, d'une manière totalement gratuite. Sur ce, on se dit au prochain épisode de Hypercroissance.